Hey, fait que là, bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal. C'est un épisode bonus du nouvel an, parce que le meilleur film que nous avons vu cette décennie, les gars, qu'est-ce que c'est?
Meilleur film en salle. En fait, on sort de...
On sort de 4.
D'ailleurs, là, on a vraiment un setup ghetto. Là, on est aux Trois Brasseurs en ce moment. Pas pour en faire de la pub gratos, mais quand même. On sort du Scotiabank, on sort du cinéma. On est très excités de parler de 4.
Ouais. On avait besoin d'en parler. Là.
On se retenait, là, on contenait nos larmes et nos éclats. Puis là, ben, c'est, ça y va. Mais là, on a une bière entre les mains. Fait que cheers. 2020, les amis.
Cheers.
Belle décennie.
Yeah.
Donc, Cats de Tom Hooper. Déjà d'entrée de jeu, les gars, tu sais, moi, vous le savez un peu, c'est un peu une joke quand je vais dans le podcast. Tu sais, je suis comme le seul défenseur, peut-être, de Tom Hooper, puis par Les Misérables, tu sais.
Il était dans mon top 10 aussi. Là.
Il était dans
mon top 10, puis il reste là encore.
Ok, super.
C'était plus Pascal.
Bon, alors, puis c'était sa façon de concevoir le musical que je trouvais intéressant. Tu sais, le live, la façon de chanter, pour moi, c'était comme je l'avais même dit dans quelques podcasts plus tôt. Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière après un film comme Les Misérables. Au niveau de la façon comment c'est fait, j'étais comme, bon, tu sais, enfin, quelqu'un qui a compris c'est quoi, peut-être, le prochain move du musical. Et puis là, il nous sort Cats, puis déjà d'entrée de jeu, moi, la grosse question qu'on se pose, c'est. Pourquoi ce CGI Fest? Pourquoi c'est un film d'animation en fait? Parce que c'est ce que c'est, là, je veux dire. C'est quoi qui distingue ce film-là d'un film d'animation, par exemple?
Puis pourquoi pas avoir fait un film d'animation complet au lieu de coller des visages d'acteurs sur des corps? Tu sais, peut-être, là, on parle peut-être de la danse, là, qui est comme un élément quand même important du musical, là, je peux deviner, mais reste que rendu là, Chris, une face de chat puis des pattes de chat qui fait un vrai film d'animation complet. Puis fait vivre de l'animation, mais là, c'est creepy, là. C'est délire.
Parce que sur le papier, on parle quand même d'un projet qui fait du sens. T'sais, on parle d'un méga blockbuster, un peu pour tout le monde, avec un casting hallucinant, là, tu sais. Mais des animaux, tu sais, c'est ça, en CGI, ça marche plus ou moins. Mais en tout cas, ça, c'était la bonne annonce de Doolittle qu'on a vu avant Cats. Mais, ouais, Cats, en fait, c'est ça, c'est que... On a commencé le film, c'est assez le fun, okay, de voir ça en salle, en fait, je pense, comme film, parce que au début, la salle était assez silencieuse. Je pense qu'on était dans un peu le, on attendait de voir ce qui allait se passer, on était dans l'attente, tout ça. Le film a un rythme quand même assez lourd et genre long. Ben. Et éventuellement, la salle s'est réchauffée, comme tu disais tantôt, Pascal. Mm. Et de plus en plus, les gens contenaient leur fou rire. Et ça finit la dernière demi-heure. En fait, les gens n'arrêtaient pas de rire, même dans les moments supposément dramatiques. Et on a fini sur des applaudissements. Tu sais, dans une salle quand même en sortie régulière, pas dans un festival, des applaudissements comme
oh,
ça.
Au ben,
un vendredi soir, tu sais, une salle. Pas, okay, déjà, combien il y avait de gens? Moi, en fait, je me suis surpris, il y avait quand même du monde. Mais
c'est
quoi,
sûr
que
ça quand... serait vide, mais là...
C'est encore le temps des fêtes, on est en vacances. Les musicals, c'est un peu synonyme du temps des fêtes, tu sais, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de familles, pour beaucoup de couples, peut-être.
Et pour le studio, en fait, parce que c'est ça l'affaire, c'est que l'enjeu était tellement grand de sortir à Noël, de sortir le 20 décembre, que...
En même temps que Star Wars, là.
Ouais, en même temps que Star Wars.
Pour que ce soit le culot,
film.
Là.
Ouais, mais une fois que les gens ont vu Star Wars, ils veulent voir autre chose. Puis à chaque année, il y a quand même plusieurs films qui sortent pendant les fêtes. C'est vrai que cette année, il n'y a pas vraiment eu tellement de choix tant que ça. Parce que, bon, tu sais, mettons un film comme Hidden Life ou Little Women, c'est des bons films, mais c'est clairement pas des films qui s'adressent à un super grand public. Little Women, un peu plus. Uncut Gems, c'est un film assez niché, tout ça. Donc, il n'y a pas tellement d'options vraiment pour la famille. T'sais. Pendant les fêtes, on va vraiment au cinéma en famille. Et après Star Wars, après Jumanji, ben, il restait comme plus grand choix mainstream. Et sur papier, ça fait du sens qu'on le sorte maintenant. Ouais. Mais clairement, le film aurait bénéficié de plus de travail au niveau des effets spéciaux. Mais j'ose quand même poser la question, comme est-ce que finalement, parce que là, on a eu une patch, nous, on a vu des effets spéciaux apparemment améliorés.
Version 1.1.
C'est ça. Mmh. Mais est-ce que vraiment, ça aurait comme changé la donne d'avoir des meilleurs effets spéciaux?
Hey, mais je peux-tu vous dire, parce que moi, je suis le gars positif, là, d'habitude, là, mais je peux quand même dire, vous savez, les effets, là, il y a vraiment du stock, là. Tu sais, ça devait être un nightmare à faire pour une équipe d'effets spéciaux.
Ah, ouais, ouais.
Puis il y a des affaires qui sont quand même impressionnantes, tu sais, que la technologie soit rendue là. C'est juste pas utile, puis c'est juste... inégal, parce qu'il y a comme
c'est
des...
Je pense que c'était condamné d'avance, en voulant dire il y a effectivement trop de jobs si tu le fais de cette façon-là, donc c'est un mauvais plan de le faire de cette façon-là.
Mais tu sais, ouais. Les effets spéciaux, en fait, c'est aussi que c'est inégal, parce que on voit des zippers à des places, puis on dirait que c'est comme... On voit comme des zippers dans le dos des costumes, mais à quel point c'est des costumes, parce qu'ils devaient porter quelque chose, puis il y a comme des bouts, les pieds sont comme là sur le sol, d'autres bouts, ils flottent carrément au-dessus du plancher, il y a comme... pas de shadow autour des pieds. Tu sais, c'est des trucs techniques, mais à un moment donné, t'égalises un peu tout, puis tu pousses certaines affaires à une certaine limite, mais on dirait que ce sont juste pas rendus au bout de l'idée. Puis
en fait, il faut se demander qu'est-ce que ça pourrait permettre d'utiliser autant des CGI. Puis une des choses que ça permet, c'est vraiment des trucs, des transitions un peu exagérées puis impossibles à faire en live action. Notamment, il y a comme le personnage de Idris Elba qui, bon, utilise de la magie, puis peut disparaître et téléporter des gens. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de truc qui est quand même dur à faire en live action. Fait que, oui, OK, ça peut permettre ça, mais au final, tu sais, tu ne feras pas croire qu'on gagne au change à investir des mois et des mois de travail en post-production. Alors que, il y a pas si longtemps, là, un La La Land nous prouvait que c'est possible de faire un musical old school, relativement parlant, tu sais, et qui plaît au grand public. Parce que moi, mettons la scène d'ouverture de La La Land sur l'autoroute, là,
c'est
meilleur que n'importe quoi dans le 4 parce que il y a comme de quoi de tangible et t'es impressionné par les chorégraphies. Là, je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que ça a vraiment été fait live ou ils ont fait comme 20 personnes séparées sur green screen?
Des chats, finalement, est-ce que tout a été triché en post-prod puis les vrais danseurs, c'est les animateurs 3D?
Bon, on va faire un synopsis là, avant d'aller plus loin.
Merci.
Fait qu'on va faire les synopsis avant d'aller plus loin. Il n'y a pas grand chose à dire, là. Il y a comme une genre de chatte ingénue qui débarque dans un côté là, de la ville là, des chats. Là. Bon, je sais pas trop. Et elle se fait un peu.
La ville, c'est genre le coin de la ruelle. Là. Il y a comme. C'est vraiment deux coins de rue, là, le film, en gros. Là.
Ouais, exactement. Puis là, il y a un bal, les Jellicle Cats. Ça, c'est le mot inventé du film là, qui est répété ad nauseam, là, genre 345 fois dans le film, probablement. On doit faire un drinking game sur sur ce mot-là. Alors, les Jellicle Cats, ça, c'est comme des chats semi-choisis, là, avec des talents, on dirait. Là.
C'est comme le Star Academy des chats, là, ou la voix des chats. Là.
Ben, exactement. Fait que dans le fond, tu t'en vas voir un film qui est littéralement un genre de show de variété. C'est vraiment fucking ça, le film, on va se le dire.
Ouais, pis sur Broadway, ça doit marcher, mais c'est qu'une histoire de même se transpose pas dans un film d'1h50. Là. C'est ouais. Juste, on présente les nouveaux personnages, puis les personnages le disent littéralement dans le film, et le prochain candidat sera, puis là, le chat qui débarque, puis il danse, puis il chante, puis là, ben.
Mais c'est ça, donc.
Pour se donner une idée, là, dans le fond, ce film-là, c'est comme la scène dans Armageddon, là, quand seulement ils doivent assembler une team. Tu sais, Bruce Willis a carte blanche pour assembler sa team. Là, t'as un montage de genre quelques plans sur chacun des gars qu'il veut mettre dans sa team. Puis là, t'as genre, tu sais, leurs caractéristiques en genre quelques plans. Puis on dira ce qu'on voudra, mais ce passage-là d'Armageddon de Michael Bay, c'est super économe. Ça marche au bout.
C'est meilleur que toutes quatre au complet.
Mais en fait, c'est que toutes quatre au complet, c'est un peu ça. C'est genre. Voici maintenant le numéro de tel personnage, voici le numéro de Judi Dench, voici le numéro de Ian McKellen, voici le numéro de Jason Derulo qui boit du lait.
Voici un bout, le film s'arrête pendant 6 minutes, puis il y a du ballet, puis ça fait pas avancer l'histoire pantoute.
Ben, ouais. C'est ça, puis là, c'est ça. Le premier 20 minutes, elle se fait expliquer c'est quoi le bal des chats, tu sais. Puis après ça, elle va au bal des chats, là, il y a des chats qui dansent, qui chantent, qui font leur numéro. Aucunement en lien avec aucune once de drama. Le seul drama vient du méchant là. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on peut gagner quelque chose au bal des Jellicle Cats, les amis.
On peut gagner d'être mort.
On peut gagner. Ouais, on peut gagner en fait de reborn. On peut gagner une nouvelle vie. Parce que les chants de vie, bon, on connaît tous ça. Et puis là, c'est ça. Là, il y a le méchant là, joué par Idris Elba, là, tu sais, qui vient juste foutre la marde là-dedans parce que lui, il veut absolument une autre vie, tu sais. C'est le seul drama. Lui, il a des pouvoirs magiques. Il n'y a aucune logique dans. Il n'y a pas de loi de la gravité. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'enjeu, ultimement. Tu sais, le film a créé ses lois au fur et à mesure. Puis, ben, donc les enjeux sont amoindris, mais c'est surtout que le véhicule du personnage principal, qui est une nouvelle comédienne, comme vous ne connaissez pas, elle s'appelle.
Francesca Hayward.
Francesca Hayward. Clairement, c'est une danseuse de ballet parce qu'elle a un numéro de ballet, puis ça, on imagine qu'elle danse pour vrai. Bon. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont pris, j'imagine. Puis, tu sais, qu'elle joue la chatte blanche angélique, là, tu sais. Puis évidemment, le méchant, c'est un chat noir méchant, là, tu sais. En tout cas, juste ça, c'est un peu grossier puis dépassé, mais bon, j'en passe. Et puis là, elle, en fait, c'est ça, c'est juste du A à Z d'une ingénue qui parle à force des choses. Et tout le temps, tu sais, dès qu'il y a comme des figures de cercle, de centre, elle est tout le temps comme en palgré réel dans le centre du cercle. C'est comme l'élu, là, je sais pas trop, là. C'est elle que finalement, c'est comme une cheerleader tout le long du film, là. Dès qu'il y a des personnages chats masculins qui sont dans les pétrins, ben t'as comme elle qui va comme les encourager, puis là, ils vont se dépasser, puis ils vont réussir, là.
Mais pas que masculin, parce que les femmes aussi, tu sais. Puis il y a le personnage de Jennifer Hudson qui est genre. Le chat de ruelle abandonné que personne aime.
Hey, ça, là, ça, c'est comme. Et c'est tellement tiré par les cheveux. Ben, c'est comme tellement gros, en fait, que c'est les bouts où ça a plus ri dans la salle. Ce sont les moments les plus dramatiques.
Ouais.
C'est vraiment un copier-coller de ce qu'il a fait avec Les Misérables. Là. Il va avoir la grosse scène dramatique, filmé en close-up. Lui, il s'est dit, j'ai eu l'Oscar avec Anatoly, l'Oscar avec cette scène-là. Je vais juste refaire ça, puis ça va marcher. Ben, c'est juste que quand tu as des bonhommes en CGI, complètement risibles, avec des faces qui flottent dans les airs, là, ça marche pas, là.
Fait que Jennifer Hudson, en plus, c'est potentiellement le chat le moins bien réussi, à l'exception de Dame Judi Dench.
Oh my God! Il y a une scène où elle est dans un panier, là. Il y a une scène, elle est comme couchée dans un panier, puis elle lève sa jambe à un moment donné, là. C'est comme, qu'est-ce qui se passe, là? Elle croise genre Ian McKellen, parce que aussi Ian McKellen, Gandalf, chat, qui est comme, what the fuck?
Ah non, c'est vraiment malaisant, je veux dire. Ça, là, c'est le... Tu sais, là, on sort de fin d'année, là, les aurores là, qui sortent, là, ils font tout le temps la joke, là, j'en ai du fort, là, le truc liquid paper, là, ce que tu veux enlever de ton CV. Ça, Ian McKellen. Ben, Ian McKellen, il a l'air d'un peu s'en crisser, là. Mais tu sais, Judi Dench, c'est quand même une bonne moyenne au bâton, il y a comme un saut de prestige. Hey, Judi Dench là-dedans, elle a l'air folle longtemps, mais pas autant que les deux chats, entre guillemets, un peu plus enrobés, qui sont là juste pour être le dindon de la farce parce qu'elles sont un peu plus enrobées. Là, on parle bien sûr de James Corden et de...
Rebel Wilson.
De Rebel Wilson. Ça, là, OK, le numéro d'ouverture peut encore passer, j'oserais dire. Là, moi, j'étais pas si de mauvaise foi que dès le numéro d'ouverture, je lançais des rushs au film. Mais je pense que le deuxième numéro du film, c'est le numéro de Rebel Wilson. Qui,
Oh my God, où il y a genre des souris puis des coquerelles avec des visages humains, là. C'est genre the stuff from a nightmare, là. C'est tellement
épeurant. Ben, en fait, je pense qu'on décroche quand on se rend compte que l'enjeu narratif tient à peu près rien.
Non.
Et que le film sera qu'un enchaînement d'introduction de personnages. Et c'est là, soudainement, que ton regard glisse d'être attentif à être ironique puis être second degré. Puis en fait, c'est là que je pense que le film a le potentiel de devenir un film culte et de devenir très camp. Et vraiment, avoir la réaction de la salle, il y a le potentiel qui est là. Parce que je pense que, et pour que ça marche, c'est pour moi, pour qu'un bon film culte fonctionne, il ne faut pas que ce soit intentionnel. Tu sais, comme j'ai déjà écrit là-dessus, mais mettons un Sharknado, pour moi, je trouve que c'est cheap parce que ça veut volontairement être entre guillemets mauvais pour attirer genre le public ironique des gens, des spectateurs postmodernes qui aiment ça apprécier des films pour leurs défauts. Et là, j'ai quand même l'impression qu'on visait la lune, mais qu'on a retombé plus ou moins sur nos pattes.
Oui, les moments les plus drôles, c'est quand il essaie d'être le plus sérieux possible. Les moments où il essaie d'être épique, il n'y a rien qui va. Il y a des espèces de danses de chat avec leur queue. Puis... Ah, puis on va se le dire, là, parlant de queue, là, les chats sont horny, là, mais comme c'est vraiment du furry territories. Là.
Ça, et... En fait, t'sais, on a l'impression que tous les chats sont en période de rut.
Tout le monde se frotte, même Judi Dench, là, c'est tout le monde, il y a comme rien n'est sacré là-dedans. Là.
Puis aussi, en fait, c'est que je me surprends à quel point le film, par moment, ose être quasiment répugnant. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de moments où c'est soit tellement weird, en fait on dirait un film de secte un peu, là, tu sais, je veux dire, entre ça pis Midsommar, je sais pas c'est quoi qui est le pire, en voulant dire, tu sais, quand Judi Dench débarque, c'est la gourou, pis là, tout le monde, genre, se prosterne, pis là, font des chants, tout le monde ensemble, pis là, t'as l'ingénue là-dedans qui est comme, oh, qu'est-ce qui se passe, c'est comme weird, pis avant que la musique devienne un peu bombastique, pis genre, entraînante, pis le fun, là, c'est flat out fucking weird, là, c'est comme souvent sur cette note-là, là, tu sais, une note, là, genre, inquiétante, répugnante, ben, répugnante, man, juste, encore une fois, je reviens au deuxième numéro, mais tu sais, du moment où t'introduis que les souris ont des visages humains...
Hey, ça... Des visages d'enfants, en plus.
Des visages d'enfants. Puis que les coquerelles, puis que les coquerelles ont des humains, puis que les chats mangent des coquerelles et des souris, c'est fait, là. Je veux dire, le film vient sombrer dans le weirdness, mais comme irrémédiable, là.
On dirait une production japonaise, quasiment. Tu sais, c'est comme... C'est pas tant bien fait, en plus, cette scène-là. Là, genre, les personnages sont juste en green screen, copier-coller, pas de silhouette, pas rien. C'est juste comme... Une scène, il y a plein d'affaires collées dans l'image, là. Ça a juste l'air d'un What the fuck Japan. Là. Si j'avais vu ça à Fantasia, film japonais, j'aurais fait ben oui, là.
Ben, moi, ça me rappelle un peu aussi les pires tendances de Tim Burton. Là. On parle de, Charlie et la chocolaterie, là. Tu sais, qui est comme. Qui est un peu trop weird, puis genre, tu sais, qui fait référence à Michael Jackson, puis tous ces numéros-là, que t'es comme. Ouais, pourquoi on a mis autant d'argent là-dedans, là? Tu sais, c'est un peu bizarre. Ça devrait être un film de niche, et non, genre, un film à comme. 150 millions de dollars. Là,
c'est drôle que tu as parlé de Fantasia, Rémi. Là, on mange en même temps. Là, c'est ça la joke. Mais on s'en crisse, on parle de cats. Mais c'est drôle que tu parles de Fantasia, Rémi. Parce que moi, j'ai vraiment vu ce film-là, genre, soit Fantasia ou soit les programmations de Jared, que Jared Mann, là, qui gère un peu Space. Puis là, récemment, il a fait un gros hit avec le Sapin des Boules.
Ghostbusters.
Bon, tout ça.
Les projections McFly, en fait.
C'est ça. T'sais, des projections thématiques. Moi, j'étais comme, je pouvais pas m'empêcher en regardant ce film-là, incrédule ou en fou rire, parce que vraiment, je vais vous le dire, là, la dernière demi-heure, j'étais en fou rire, je regardais même plus l'écran tellement j'étais pas capable de contenir mon rire. Puis la salle, comme Paul l'a dit, c'est tellement délié que là, dès que j'entendais quelqu'un qui osait rire à un moment qui avait pas de bon sens, je repartais à rire parce que Chris, ça a pas de bon sens. Bon, bref. Mais là, j'étais comme, sérieux, il faut que ce film-là soit réhabilité dans des projections thématiques, là, du Rocky Horror Picture Show-esque, où, tu sais, amener votre chat, puis comme je disais, pitcher de la bouffe de chat à l'écran quand c'est de la... Je sais pas c'est quoi, là, mais il y a vraiment clairement un jeu à faire, une thématique à faire autour de ce film-là, parce que comme Paul, tu l'as dit, ça a trop essayé de choses. C'est Tom fucking Hooper, là, c'est pas complètement un imbécile. Je veux dire, à maner, là, c'est pas complètement un imbécile.
Puis c'est un drôle de film, ça le reste, on sait pas exactement à quel public, tu sais, parce que au-delà de comme un enchaînement de numéros musicaux et dansants, il y a également toute l'idée qu'on essaie en même temps de nous apprendre c'est quoi un chat, puis t'sais, comme, c'est quoi les caractéristiques des chats, là, t'sais. Comme les chats aiment ça foutre le bordel, puis être sur le lit, les chats aiment ça la bouffe de les poissons, puis les crevettes, puis... Fait que c'est comme une espèce de, quasiment un peu Dr. Seuss, là, t'sais, comme une espèce de comme conte pour enfants qu'on essaie de te montrer c'est quoi les chats, mais comme vous l'avez dit tantôt, il y a comme des espèces de d'arômes sexy, sexuels, un peu bizarres, qui fait que je voudrais pas nécessairement que mon jeune enfant écoute ça. Mais effectivement, genre un public à la Rocky Horror Picture Show, là, tu sais, que ça en va un peu déjà déguisé, un peu en cuir.
Hey, moi j'aimerais ça, me déguiser en chat puis aller voir ça, là.
Hey, c'est oublie ça, là, les freaks de partout dans le monde, ils capoteraient, là. Non, il y a vraiment de quoi à faire avec ça. Quand Judi Dench lève sa jambe, genre tout le monde lève sa jambe, je sais pas, là, il va y avoir des calls très précis autour du film. Puis tu sais, Idris Elba, puis maintenant, en tout cas. Là, évidemment, vous l'avez sûrement pas vu, mais pourquoi parler autant de Cats? Je pense en fait que moi, je suis pas en train de déconseiller surprenamment, c'est-à-dire, quand on va le voir avec du post-regard, là, t'sais, en voulant dire du méta, puis tu vas le voir pour rire ou pour essayer de comprendre la catastrophe ou l'ampleur de la catastrophe, man, j'ai comme eu du fun, mais ça a pris du temps avant de me délier parce que comme je dis, le numéro d'ouverture est pas particulièrement mauvais. Il y a un numéro de tap dancing, c'est peut-être la meilleure chose du film parce que comme il y a du tap dancing pour vrai.
Ouais.
Ben, tu sais, je sais pas là, c'est peut-être, mais c'est quoi la meilleure affaire du film? Sinon, c'est quoi, ouais. Sérieusement là?
Moi, c'est parce que je vais être un peu contradictoire à vous là. Je suis vraiment content de l'avoir vu, j'ai ri tout le long. Mais on dirait que j'ai pas tant le goût de le revoir, puis j'aurais pas tant le goût de programmer ça avec des amis, parce que pour... Tu sais, je pense du monde qui le découvre, ça va, là, mais genre, c'est tellement boring as fuck, l'histoire, là. Sur mon Rocky Horror Picture Show, il y a genre plein d'affaires comme weird qui se passent, des affaires spectaculaires, là, j'étais juste comme... Oh, je veux juste que ça finisse, là. J'ai aucun attachement à personne, là, puis ça dure quasiment 2 heures, là.
Mais tu trouves pas que ce film-là aurait été meilleur dans notre salon avec la bière, là?
Ah, ou sûrement, genre, sûrement.
Ou des Jellicles au THC, là. Mais.
Sûrement, mais en même temps, juste de sentir la réaction de la foule qui grimpe, puis qu'à la fin, dans les moments les plus dramatiques, les plus intenses, tout le monde rit en cœur, puis le monde applaudit au générique. Là.
Moi, je vais même le dire, dans une projection régulière, là, hors festival, là, c'est une des expériences en salle les plus mémorables. Chris, on vient de le voir, puis on boit de la bière, là. Mais je suis sûr que je vais me reprendre dans des années, puis que je vais encore dire la même chose. J'avais jamais vécu ça. J'avais jamais vécu une salle qui, je crois, 80% de la salle rentre de bon cœur. Bon, il y a eu plein de walk-out, il y a plein de gens qui sont juste partis parce qu'à un moment donné, genre, what the fuck is that? Mais ceux qui sont comme restés, puis ils ont commencé à rire aux endroits où il fallait pas, puis c'est comme là où il y avait comme de la magie, puis c'était électrique, puis man, ça n'a pas de bon sens. Non?
Mais d'où l'impression d'un film culte en devenir, tu sais. Moi, je pensais aussi à... Cet été, à Fantasia, il y avait un documentaire sur le phénomène Phantom of the Paradise, précisément à Winnipeg,
où
il y a comme une communauté vraiment qui a comme adoré ce film-là et qui est resté des mois à l'affiche, alors que dans le reste du monde, ça a quand même beaucoup floppé. Et maintenant, le film, il est un peu réhabilité, tu sais, puis on... Mais c'est un film quand même qui c'est ça, c'est qu'on embarque avec le film puis on comprend ce qu'il veut faire, mais clairement, le premier public était
largué.
Ouais, puis abasourdi de voir ce projet-là, tu sais.
Tu sais, voyons, c'est que ça a passé du papier à... Tu sais, comme lui, là, il a eu cette idée-là là, de garder le monde en sous 3D, puis il a réussi à convaincre un studio complet de pomper 100 millions là-dedans. Là. C'est tellement fou. Là. Moi, ça me rappelle plus, en fait, One from the Heart de Francis Ford Coppola, qui a été son gros crush. En fait, il avait formé son studio. Après avoir fait 4 masterpieces, le projet dans lequel il investit tout, c'est One from the Heart, un musical où il recrée Las Vegas en studio, genre ultra ambitieux, c'est impressionnant les décors, mais au final, là, le film, c'est rien, là. C'est rien pour tout le travail qu'il y a eu. Quand, moi, je trouve que c'est le parallèle parfait là, avec ça. Là. Ouais.
Et tu vois, moi, je trouve que c'est des films qu'on aime détester quand même. Ouais. Tu sais, dans le sens que je pense pas que ce film-là soit totalement inutile et genre ennuyant. Je pense quand même qu'il y a quelque chose dans ce film-là qui fait comme un showgirls. Ouais, ouais. Tu sais, ce genre de film-là que tu dis, il y a quand même des trucs le fun. Tu sais, mettons Jennifer Hudson, là, c'est une super chanteuse. Son numéro, c'est pas elle le problème, c'est le contexte du film, mais elle-même en soi, elle est très bonne. Il y a deux danseurs que j'adore, là, les Twins, qui sont là-dedans, qui ont un tout petit rôle. Eux, c'est des danseurs français qui ont dansé notamment avec Beyoncé, puis ils sont super talentueux. Bon, c'est sûr que c'est plus impressionnant de les voir en live que de les voir comme en CGI.
Ils ont une des meilleures scènes, en fait, la scène où ils crissent le bordel dans une maison. Au final, c'est peut-être...
Ah non, c'est pas eux autres.
Ah, c'est pas eux, ça?
Non, ça m'en est pendant le numéro de ballet, puis eux, ils font une espèce de breakdance.
Ah, finalement, ben, je suis sûr. Finalement, la scène que je trouvais cool.
Les seuls qui ont des souliers.
Ah, ouais, ok. Ouais, les seuls que leurs pieds matchent avec le sol, là, parce qu'autour, tout le monde flotte. Là.
Ouais, ben, c'est ça. Mais là, on vient de parler de Phantom of the Paradise, One from the Heart. C'est tous des films qui sont réhabilités a posteriori, là. Est-ce que Cats, dans 30 ans, ça va être comme l'espèce de film hollywoodien maudit qui va comme ressurgir d'outre-tombe? Genre, j'ai ri ma fucking vie, là. J'ai un fou rire, là. Je pleurais de rire. Fait qu'à un moment donné, ça témoigne de quelque chose pareil, ouais. Ça. Je sais pas quoi dire. Là, j'étais pas juste en train de m'emmerder, c'est ça mon point.
Ouais. Je sais même pas comment noter ce film-là. Mettons que j'écris un texte dessus et que je me penchais sur la question. Tu sais, c'est-tu comme une étoile ou c'est un 4 étoiles? Tu sais, dans le sens que.
Ça défie la cotation d'étoiles comme un peu dans l'immédiat, ne serait-ce. Moi aussi, je saurais fucking pas comment le noter.
2 sur 5 sur Letterboxd, moi ça va être ça.
Ah ouais?
Moi j'ai déjà fait mon.
2 sur 5 sur Letterboxd?
Suivez-moi sur Letterboxd, j'ai mis fréchette sur Letterboxd, merci tout le monde.
L'étoile du match, c'est quoi? C'est quoi le meilleur chat?
Oh, je sais pas quoi dire. Le magicien, là, je sais pas, là. Il y a comme une scène avec le magicien où il y a comme des trombones qui volent, puis genre des fleurs qui volent partout, puis des cartes, là. Puis là, c'est le bout, je pense, la salle a comme lâché prise, là. C'est comme il y a une shot wide de plein d'affaires qui volent.
Ça c'est le début quand le film jump the shark complètement, là. Moi, c'est peut-être jump the cat ou je sais pas quoi. Et c'est peut-être le. Tu sais, il reste peut-être une demi-heure à partir de là, là. Puis à partir de là, là, c'est comme. On a passé à un autre niveau, là. On a level up, c'est super saiyan, là. C'est 4 super saiyans, puis ça lâche plus jusqu'à la toute fin, là. Jusqu'à ce que Judi Dench nous regarde, même brise le quatrième mur, puis nous chante dans la gueule à la toute fin du film, là. Le film lâche plus, là, à partir de là. Fait que, tu sais, moi, la dernière demi-heure, man, parce que j'ai pas ri au cinéma. J'ai pas ri de même depuis... ça fait longtemps que j'ai pas ri de même.
Fait que toi, l'étoile du match, Pascal?
Ben, tu sais, comme je disais, le seul numéro que je trouvais qui était comme décent pour vrai, c'est soit le numéro d'ouverture ou le tap dance. Non, mais tu sais, mais moi, juste Judi fucking Dench, là, genre, elle est mal faite de chez mal faite. Fait que, tu sais, à toutes les fois, je la voyais, à un moment donné, c'était comme instantané, c'était pavlovien, là. Je voyais sa gueule, je partais à rire.
On dirait que c'est la pire, parce que son visage, il n'a pas le même travail de contraste que sa fourrure. Genre, tout le monde, comme les visages blendent quand même. Je sais pas si c'est à cause des rides de Judi Dench, ça, c'est une petite damagée, là, mais on dirait que ça fitait comme pas avec le reste du corps.
Tu sais, Judi Dench qui est un peu horny, là, à un moment donné, là, tu sais, à un moment donné, elle frotte un peu, là.
Regarde
Yann McKellen
avec beaucoup trop d'amour.
Damn, asti. Judi Dench, étoile du match, mais ça, on pouvait le savoir depuis le trailer. Là, c'était cool.
Moi, je vais vous surprendre, mais pas nécessairement Rebel Wilson, mais le fait que son personnage porte un saut de chat, ça, j'ai trouvé que c'est du génie.
Idris Elba aussi, la manée, Idris Elba, il débarque et il est rendu à poil. Là,
non, mais lui, c'est différent. Lui, il porte des vêtements. Idris Elba, Rebel Wilson, se dézippe son coat de chat. pour se sortir d'une situation où elle est enchaînée.
Et c'est ça, comme, c'est méta, hey, tabarnak,
si le film peut se permettre ça, là, je suis comme bravo, franchement, vous avez comme rien à craindre.
C'est une peau de chat avec sa peau de chat en dessous. C'est comme le même. C'est juste comme des vêtements par-dessus, là. Ben, c'est tellement bizarre.
T'sais, est-ce que c'est le seul chat qui a une autre peau de chat? Puis comme. Ça veut dire qu'elle a tout le temps un saut en dessous, puis qu'elle est prête à genre à se dénuder, mais en fait, c'est juste son habit. T'sais, c'est tellement étrange. C'est comme si, genre, j'étais devant toi, là, puis là, genre, j'enlevais un saut, puis j'avais comme un autre ensemble de vêtements en dessous, là, t'sais. C'est comme. T'sais, Mission Impossible, là, c'est la petite bière, là, de ça, là.
Ouais. Ouais. Hey, y a rien à dire, man. C'est un peu tout ça, et bien plus, Kat. Là, vous êtes pas au bout de vos surprises, fait que, man, boudez pas votre plaisir, puis. Hey, on l'a vu tous les trois sobres, hein? Zéro rien, là.
Je regrette quasiment, là. Avec des jujubes aux potes, ça serait la meilleure affaire, là.
Bon. Ouais. Fait qu'on réhabilite à l'Halloween, puis avec des substances. Et voilà. Hey, c'était notre point de vue. Mon nom est Pascal Plante. J'ai été avec mes collègues.
Rémi Bréchard.
Et Paul Lario. Ah, man, génie.